Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps.
Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas.
Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue.
Le futur a montré certaines choses.
J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps.
Tu peux faire certaines erreurs dans le passé que tu fais plus dans le futur.
Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h01, l'after est là jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Walid Acherchour, avec Jean-Louis Tour. Je parlais Coupe du Monde tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur l'appli RMC des podcasts extraordinaires qui présentent toutes les sélections de la Coupe du Monde. Si vous voulez tout savoir sur la Suisse, l'Iran, la République démocratique du Congo, l'Australie, la Corée du Sud, tout ça est en ligne, en plus des podcasts After Paris, Lyon, Marseille, Portugal, non, on n'a pas encore le Portugal, mais Espagne, Angleterre, Italie.
Là, on a tous les pays en ligne pour la Coupe du Monde.
Et je crois qu'ils ne sont pas encore tous en ligne. On les distille. Le Ghana, par exemple, est bientôt en ligne.
Il faut que je bosse mon Afrique du Sud pour le match d'ouverture.
Voilà. Ah oui.
Allez, donc j'écouterai le podcast.
C'est quoi le match d'ouverture déjà? Je suis pas
Mexique,
dedans.
Mexique-Afrique du Sud.
Okay.
Ah, faut que tu t'y mettes.
Ah oui, là-bas.
T'es pas Gilbert qui se réveille en pensant à la Coupe du Monde tous les jours encore.
Moi, tu sais que j'aime bien.
Tu sais que ça peut être.
Jusqu'au bout.
Ça peut être une surprise. Hein. L'Afrique du Sud, c'est une bonne équipe.
Ouais, c'est une bonne équipe.
Mmh. Ouais.
Après, avoir les conditions de la Coupe du Monde.
T'as pas dit ça sur toute la CAN et.
Il y a déjà eu un Mexique-Afrique du Sud en ouverture. T'es au courant?
Ah bon?
En 2010. Voilà. Groupe de la France.
C'est un Mexique-Afrique du Sud le premier match.
Oui, groupe de la France.
Purée, c'est vrai, avec Chabalala.
Voilà, Chabalala. Qui n'était pas un but au handball, pour les connaisseurs. De quoi je voulais parler là? Je ne sais plus du coup.
De Julien Laurence.
Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Tu étais dans les drôles de l'âme tout à l'heure avec Jean-Louis. Il a été bon, Jean-Louis?
Il est très bon.
On va le garder, ouais, je pense.
Bon.
Merci.
Non, c'est Nico le titulaire.
Ah, Nico,
bien sûr. Il y a une gestion de groupe à assurer.
C'est pas faux,
quoi. Est-ce que ce soir, on a assisté à ce qui sera l'épilogue du titre en Premier League avec le 3-3 entre Everton et City?
Ah, peut-être, effectivement. Peut-être que ce match nul de City qui a vraiment des airs de défaite. Hein. On a vu l'égalisation de Jérémy Doku à la 97e minute pour revenir à 3-3 alors qu'ils avaient été menés 3-1 et que Haaland avait marqué déjà quelques minutes après le deuxième but de Tierno Barré. Mais c'est un match nul qui ça te rapporte un point, mais c'est pas du tout ce qu'il fallait, puisque maintenant Arsenal a son destin en main. Il suffit qu'Arsenal gagne tous leurs matchs, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ça aurait pu jouer la différence de buts ou au nombre de buts marqués.
Et il en reste combien? Parce qu'en France, on a oublié qu'il y avait 38 matchs en Angleterre.
Ouais, 3 chacun.
Voilà. C'est beaucoup quand même.
Un peu plus dans City, non?
Non, pas 3 chacun.
Non, il en manque un pour City aussi.
Oui, ils en ont 4.
Enfin, 4, oui, pardon. Ouais. Il reste 3 journées, mais il reste un match en moins à City à jouer. Donc, 4 et tous les autres 3. Enfin, et Palace 4 aussi.
Bon, il ne faut pas qu'Arsenal se dérape pour être champion et ça devrait coller, quoi. Mais il faut tout gagner.
Faut tout gagner. Ils vont à West Ham, ils reçoivent Burnley et ils vont à Crystal Palace pour terminer.
Et le seul gros match pour moi, c'est West Ham, Julien, vu que là, ils sont dans une situation compliquée. Mais après Palace, ils vont préparer leur finale de Conference League.
Contre
Strasbourg, on le voit les canaux. On souhaite Strasbourg, bien évidemment. Mais derrière, j'ai l'impression que c'est quand même une autoroute après West Ham.
Et là, en 48 heures, Arsenal, ça peut être le.
La semaine de feu, là.
Finale de Ligue des Champions et derrière, ils ont une balle de match pour aller. Pour aller gagner une première ligue, ce serait fou.
Et pour City, c'est Brentford à domicile. Donc Crystal Palace, le match en retard, à domicile aussi, 3 jours plus tard. Et ensuite, ils vont à Chelsea. Et ils vont à Bournemouth Chelsea, la finale de la Coupe d'Angleterre qui est au milieu. Ils vont à Bournemouth et ils reçoivent Villa. Donc les deux derniers matchs pour City, c'est à Bournemouth et à domicile contre Aston Villa, qui aura peut-être quelque chose à jouer encore ou pas d'ailleurs.
Le Bournemouth de Eli Kroupi, mon chouchou, qui est en grande forme. Hein.
A vaincu en 15 rencontres et qui est 6e, qui peut, il faudra un petit miracle, mais qui peut se qualifier encore pour la Ligue des Champions.
Bon, alors quel est ton ressenti à toi, ce que tu nous dis ce soir? Est-ce que toi, là, ce soir, en tant que suiveur de la Première Ligue, tu vois, ça y est, que c'est réglé, ça va être Arsenal ou pas?
Pour moi, on en avait déjà parlé, c'était du 50-50. Là, Arsenal avait pris un avantage,
c'est
deux matchs de plus que City. Mais sinon, on l'avait dit, ils étaient à égalité parfaite, quasiment, même à la différence de but, même au nombre de buts marqués, plus ou moins. Et on disait, c'est le premier qui va faire un faux pas, qui va lâcher des points quelque part. On savait qu'il y aurait peut-être une équipe qui allait perdre des points aussi. Le tournant, c'est peut-être ce soir, effectivement, plus que le week-end prochain encore. si on attendait qu'il y ait une équipe qui puisse avoir son destin en main, et si c'est le cas maintenant avec Arsenal. Donc tu leur donnes un petit avantage, que ce soit un 60-40 par exemple, ou 65-35 si tu veux, mais ils ont repris l'avantage, là c'est sûr.
Bon, on va suivre ça avec intérêt. Je renvoie au drôle de dame donc pour juste, toutes les infos également.
Non, mais juste pour finir, pour ceux qui n'ont pas vu le match.
Énorme erreur
dans un match où City a plutôt le contrôle de la première période, ils ont beaucoup de ballons, ils marquent un but de Doku sans se faire de frayeur, vraiment sans que ce soit parfait, mais sans se faire de frayeur. Gueye qui a quand même été la recrue, une des recrues phares avec Semenyo de janvier, qui a été très bon pour eux, c'est pas la question, mais là il fait une grosse erreur sur le premier but de Tierno Barry, même si on reparlera beaucoup du fait que sur la première passe initiale vers Barry est hors jeu. Ça veut dire que si Gueye touche pas le ballon, et rappelez-vous, on a vu ça en Ligue des Nations avec Mbappé, je crois, dans le France-Espagne.
Si Gueye touche pas le ballon,
il n'y a pas but puisqu'il y a hors-jeu voilà. Contre Barré. Le fait que Gueye touche le ballon, tente cette passe en retrait vers Donnarumma.
Volontairement la donner à Donnarumma, ouais.
Ouais, il se rate sur la passe. Et d'ailleurs, tu vois sur son visage, il voit tout de suite qu'il a raté complètement sa passe. Barré marque, mais Barré était quand même hors-jeu sur la première passe du joueur de Manchester City. Après, il y a eu une grosse erreur de Donnarumma sur un corner, mais ça, encore une fois, on les avait prévenus. À chaque fois on le dit, hein, mais à chaque fois c'est la vérité, hein, il leur coûte le match nul à West Ham et dans un sens le match nul de ce soir, et après ils prennent un autre but à la 81e minute sur une grosse erreur défensive, encore une touche rapidement jouée où tout le monde dort. À un moment, City ou pas City, Guardiola ou pas Guardiola, Haaland, Cherki ou pas Haaland, Cherki, à un moment défensivement tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça, même contre une équipe comme Everton qui est une bonne équipe, qui peut encore rêver peut-être d'une Conference League la saison prochaine ou d'une Europa League, mais c'est pas quand même non plus l'une des meilleures équipes du championnat.
Bon, bah écoute, merci Julien pour ce petit point, et tu seras avec nous demain soir évidemment, après le match entre Arsenal et l'Atlético qui peut envoyer Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Salut Julien, bonne soirée.
Avec plaisir, ciao, à demain.
On enchaîne avec le jingle Walid pour parler justement Coupe d'Europe et du match du PSG d'après-demain face au Bayern.
J'avais un débat, et je fais un débat depuis plusieurs jours là dans ma tête tout seul, et j'aimerais le partager avec vous.
Tu fais des débats tout seul dans ta tête, toi.
Tout seul, je suis un vrai fou.
Alors, on va t'écouter sur Luis Enrique et la stratégie à adopter.
Oui, j'ai fait les débats dans ma tête aujourd'hui. Et on en avait un peu parlé jeudi avec Daniel. On n'était pas d'accord. Je profite de la présence de Jean-Louis ou des auditeurs pour aller un peu plus loin dans ma réflexion. Avec la grosse tuile de Achraf Hakimi, moi j'ai envie de retrouver le Luis Enrique que détestait Daniel. Sur les idées du chapeau façon Guardiola qu'il peut avoir sur certaines soirées de Ligue des Champions qui peuvent parfois coûter à ces coachs-là, parce que je pense que ça s'impose sur cette demi-finale de Ligue des Champions pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Hakimi, j'en ai déjà parlé, mais avec la gestion de la profondeur notamment, va énormément manquer, et par rapport surtout aux remplaçants qui pourraient remplacer Zaïre Emery, qui ira donc à la place de d'Achraf Hakimi, Fabien Ruiz qui m'inquiète. Moi je l'ai encore vu contre Lorient ce week-end. Je pense que Achraf Hakimi, Fabien Ruiz n'est pas revenu à son meilleur niveau, et j'ai très très peur dans un match avec autant d'intensité que va représenter cette demi-finale retour, et vu sa rentrée qu'il avait fait déjà contre le Bayern, qui pour moi avait véritablement coûté au PSG dans la dernière demi-heure. Moi je ferai les changements, je tenterai quelque chose, soit Désiré Doué dans l'axe à la place de Fabien Ruiz, pour amener un Barcola qui peut jouer à droite notamment. Moi j'irai sur de la transition au max face à un Bayern qui va devoir jouer son va-tout, qui n'est pas dans un football de renoncement où il y aura pas de compromis. Ils vont jouer comme ils jouent contre Augsbourg, comme ils jouent contre Bochum à la maison, en harcelant énormément avec les latéraux, avec Leimer notamment.
Il a annoncé la couleur dès la fin du match aller.
Exactement. Et moi je pense que avoir un Désiré Doué qui est plutôt en forme et qui mériterait pas de sortir et qui peut assumer 70-80 minutes au très très haut niveau, à une grosse intensité, et qui dans le cœur du jeu peut apporter sa finesse technique et sa qualité de projection pour aller trouver Gvara, Dembélé et Barcola. Je suis pas sûr que faire du conformisme en mettant en faisant du changement poste pour poste avec Fabien Ruiz pour Warren Zaïre-Emery pour Hakimi, avec la perte d'Hakimi, soit une bonne chose. Alors j'ai aucune leçon à donner à Luis Enrique, il mène tellement bien sa barre que c'est pas Walid Acherchour qui va lui préconiser des choses, mais j'avais envie quand même de soumettre cet avis là. Pour le coup, depuis un moment, il ne fait plus de fantaisie.
Depuis quand? Depuis quand?
Depuis fantasy. Qu'est-ce qu'on appellerait une fantasy? Je pense que depuis la depuis janvier, dès qu'il a trouvé Dembélé en faux numéro 9, dès que son laboratoire a fonctionné, le laboratoire qui ne devait pas exister selon Daniel.
Je reformule, toi tu veux le retour de Luis Enrique en mode Jiffy, les idées
de... En mode Jiffy, mais de manière circonstancielle parce qu'il y a une blessure.
Tu veux le retour de Luis Enrique quand ça ne marchait pas?
Non, pas forcément. Pas forcément quand ça ne marchait pas. Parce qu'il y a eu des matchs où ça marchait. Parce que contre City, il a des idées de génie et ça marche notamment. Quand il rentre à...
Mais là, on était déjà...
En deuxième mi-temps,
2025 déjà.
Oui, mais en deuxième mi-temps, il met Ousmane Dembélé en faux numéro 9. Ouais. C'est ce qui fonctionne.
Tu veux dire, c'est quand on a commencé à jouer un petit peu plus en transition, qu'on a arrêté les passes latérales et
Je préconise la transition avec, avec Désiré Doué, avec Bradley Barcola.
D'accord, vous avez juste 2 ans de retard, c'est pas
grave. Mais en tout cas, moi, j'appelle de mes voeux un changement par rapport à l'incertitude de Fabien Ruiz et par rapport à la perte d'Achraf Hakimi et la forme de Désiré Doué, même si je dois être honnête. Barcola n'a pas fait un super match contre Lorient, loin de là.
De par son profil
pour exploiter les espaces.
Alors Jean-Louis, avant que Daniel ne réagisse, est-ce que toi aussi,
je comprends le retour
de Luis Enrique Jiffy?
Non, mais déjà, est-ce que c'est vraiment... Il faudrait définir ce qu'est une décision Jiffy. Tu vois, doué au milieu de terrain, oui. Mais par exemple Dembélé, puisqu'à force,
il faut créer. Non, mais par exemple, chez le... tous les trucs qui fascinaient le trio magique.
Non, mais par exemple,
Walid, Flo, Kevin.
Non, mais par exemple Dembélé,
il faut créer l'incertitude. Toute la philosophie inutile.
Non mais Dembélé en 9.
Pour Daniel,
c'est une fantaisie ou pas?
Ah oui, Dembélé en 9, à la base, c'est une fantaisie pour Daniel. Après, depuis qu'il a gagné la Ligue des Champions, c'est devenu un truc normal. Vitinha en 6, c'était une fantaisie. Pendant un an et demi, il s'est gosillé ici pour dire que Vitinha était un 8.
Il ne faut pas mentir.
Non, je m'en bats.
Alors, je vais te dire la réalité. Vitinha, déjà, tout le monde pensait que c'était un bidon. J'étais le seul mec qui disait que c'était un
très bon joueur. Ça, c'est autre chose.
Ensuite, en 6, c'est parce qu'il n'y en avait pas d'autres.
Oui, mais toi, tu disais, je ne comprends pas pourquoi il
joue. Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux? Pour moi, Vitinha en 8, je suis sûr qu'il n'aurait pas fait les mêmes matchs et la même carrière.
Ah, moi, je suis persuadé que ça. Que je préfère face au jeu. Je préfère face au jeu que beaucoup plus haut sur le terrain.
Tu réponds ça.
Mais à chaque fois, on en parlait.
En 6, il est extraordinaire, mais en 8, pour moi, il aurait été.
Mais tu critiquais souvent. Luis Enrique. À chaque fois qu'on en débattait, tu disais Walid, s'il
avait pris Rodri.
Oui d'accord, mais Vitinha, en fait le football,
c'est
pas comme ça.
Au début, il l'a mis la
parce qu'il n'y avait pas mieux.
Oui, c'est tant mieux, c'est génial.
Non, c'est un vrai changement.
Mais en 8,
Ugarte, il l'avait acheté 60 millions d'euros pour être le numéro 6. Non, c'était pas vieux, c'était la deuxième saison. C'était la deuxième saison où, encore une fois, avec Luis Enrique, tu préférais Ugarte en 6.
Moi je pense.
Après le match contre Dortmund où il se balade, mais c'est pas grave.
J'aime bien, tu refais ta réalité à chaque
fois. La réalité des réseaux, c'est pénible.
Moi je pense juste que dans la tête de Luis Enrique, Doué, c'est pas une option au milieu de terrain. Enfin, je l'imagine pas comme ça sur un gros match. Les rares fois où il l'a fait en championnat, c'était vraiment sur des petits matchs type Strasbourg au Parc des Princes, des trucs comme ça. Le Havre aussi, je crois. Donc, j'ai du mal vraiment à l'imaginer.
Ah non, il le fera pas.
Mais par contre, s'il y a un vrai doute sur Fabien Ruiz que je partage, je me demande si l'option, même Beraldo au milieu de terrain, au poste, ou Kanginli,
ça marche pas
avant. Non, là, pour le coup.
Ça, c'est une idée.
Ah oui, mais il a installé depuis. Au milieu de terrain.
Oui, mais contre Angers, contre Lyon et contre.
Quand tu vas chez Jiffy, il y a des trucs que tu avais déjà trouvé quand tu étais allé il y a 2 mois. Ils sont toujours là.
Non, ça, c'est une idée qui pue, ça, pour moi. C'est pas une idée de génie, c'est une idée qui pue. Mais par contre, mettre Vitinha.
Je sais pas si ça pue plus que Doué au milieu de terrain.
Non, parce que Doué au milieu de terrain, il l'a déjà fait. Et je pense qu'à la récupération du ballon, il pourra se projeter
très rapidement. Mais là, vu les difficultés au milieu de terrain. Oui, mais t'as vu le boulot qu'il faut faire au milieu.
Oui, mais Warren Zaïre Emery n'a pas les mêmes qualités que Hakimi parce que sur le premier match, Hakimi défendait sur Laimer ou sur Alphonso Davies et Marquinhos était en 1 contre 1 sur Luis Diaz. Oui. Et moi, je pense qu'il y a, notamment sur le but d'Olise, il y avait des gros problèmes à fermer dans l'axe avec Moussiala. Et je pense que Warren va avoir un rôle beaucoup plus axial entre la défense et le milieu de terrain que Hakimi avait sur la première mi-temps. Donc mon avis, c'est que Doué et Barcola, moi j'aimerais avoir beaucoup plus de verticalité avec le...
Bon, Doué, tu le mets sur le banc ou sur le terrain?
Non, sur le terrain. Moi, j'enlève Fabien Ruiz, moi.
Moi, devant.
Moi, pour moi, Fabien Ruiz, il est pas prêt.
Tu le mets au milieu.
Et Doué, je le mets au milieu.
Donc
je fais Doué, João Neves, Vitinha en 6, Warren Zaïre Emery, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Barcola à droite, Guevara à gauche, Dembélé en 9.
Moi, je pense pas aussi pour une autre raison, c'est que ce match,
il le fera jamais,
ce serait beaucoup trop offensif. Et je pense que l'idée de Luis Enrique, ça va être justement de faire autre chose qu'à l'aller et d'essayer d'avoir un peu plus d'emprise sur le match.
Pour moi, il faut le même match qu'à l'aller. Et je pense qu'avec le même match qu'à l'aller, avec les joueurs que je te cite, dans un match ping-pong, je pense que tu crèves beaucoup plus le Bayern qui te crève.
Allez, Daniel. Daniel a la parole juste après la pub. Moi, je vous dévoile un petit secret. Je suis allé chez Jiffy la semaine dernière.
Et t'as acheté quoi?
Eh ben,
je n'ai jamais rentré chez un.
J'avais besoin d'un thermomètre.
Un thermomètre.
J'ai trouvé un magnifique thermomètre à 2,50€.
Ah oui.
Mais est-ce que ça marche les trucs chez Jiffy?
Bah le thermomètre marche très bien. Par contre j'étais choqué, ils vendaient des cookies chez Jiffy.
Mais c'est quoi le concept de Jiffy? Parce que j'allais demander pourquoi il y a des idées de génie. En fait c'est de la trouvaille.
Mais c'est quoi? C'est comme But et Darty en fait.
Non, c'est vraiment beaucoup plus bas de gamme.
Ah d'accord, ok.
Jiffy, il y a tout.
C'est les bonnes affaires quoi.
Tu peux acheter ta lessive, du bricolage.
Ah oui, c'est Mathieu Louis Jean.
Jardin.
C'est Mathieu Louis Jean.
Toujours pas le slogan les idées de génie.
Ouais, bah c'est un slogan quoi.
Mais parce que tu vas rentrer, oui, tu vas rentrer dans le magasin. Il y a un truc que t'as pas pensé, tu dis c'est une super idée ça pour chez moi.
C'est une idée de génie.
Voilà.
C'est une idée de génie.
Ouais, c'est un thermomètre, un coup comme Dembélé en neuf quoi, comme Dembélé en neuf.
Ouais, par exemple. Voilà, allez, on continue.
On continue. Comme quoi, c'est une grande idée. Putain,
à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h19, Olivier Cherchoré, la Daniel Riolo est là. Et Jean-Louis Tour, bien sûr. On continue le débat autour du match d'après-demain et de la stratégie que doit adopter Luis Enrique après le match aller complètement fou. D'ailleurs, vous espérez un match aller aussi fou ou vous le voyez pas aussi fou?
Ah, moi non, moi je le vois plus fermé.
Tu vois serrure.
Ce serait la logique. Quoi,
moi je pense que justement, en plus, Luis Enrique il a fait ses grandes déclarations de il faudra mettre au moins 3 buts au retour. Et
donc,
je
veux dire que les deux coachs vont faire l'inverse de ce qu'ils ont l'habitude de faire?
Bah, je pense que oui.
Et surtout dire ce qu'ils vont.
Avec la pression de l'élimination. Après, je serais.
Compagnie nous mentirait alors.
Non, mais je peux me tromper aussi. Hein. C'est une certitude. Mais je sais pas. Je me dis la pression de l'élimination, le fait qu'il y a un score à tenir, voilà, ça fait que tu vas moins te lâcher qu'à l'aller.
Après, sur la première mi-temps.
Et l'absence aussi d'Hakimi fait qu'à mon avis, Zaïre Emery va être un profil un peu plus défensif, là où Hakimi laissait beaucoup son côté.
Contre le Real, la première mi-temps, elle est complètement folle. Après, en deuxième mi-temps, il y a de la tension. Mais déjà, il y avait un match ping-pong en. Bon, après, il y a
ça
la.
Ça a quand même fait 4-3.
Hein. Oui, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, ils sont un peu plus regardés qu'en première mi-temps.
Et surtout, on a vu un Real qui, dans le début de match, a donné l'impression qu'il pouvait se qualifier. Et donc, claquer un gros coup là-bas. Ce qu'a fait le Real là-bas, on a presque envie de dire que le PSG peut le faire.
Ah oui,
et le
Bayern, en mieux. Sans être repris. En championnat
sans être repris, comme le Real a été repris. Ouais, parfois,
quand même. Ouais.
Donc, moi, honnêtement, c'est comme le match aller. Je ne veux m'attendre à rien.
Lassana est là. Lassana, bonsoir.
Je vais pas répondre en fait.
Bonsoir les gars.
À quel moment on doit faire le débat et je réponds pas alors.
Vas-y, mais là c'est Lassana. Ce sera toi après.
Ah, ok. Salut, c'est pas logique mais.
Salut Lassana. Bah, la logique. Luis Enrique, il est logique.
Il l'est beaucoup même.
Lassana.
Depuis qu'il l'écoute, il l'est.
Exactement.
Lassana, toi tu penses que Doué au milieu c'est du suicide.
C'est du suicide. Doué au milieu de terrain, il perd énormément de ballons. Moi, je m'attends à ce que Bayern nous mette la foudre. Pendant les premières minutes, Doué au milieu de terrain, il perd full off de ballon. Doué, c'est quasiment plus un milieu de terrain, c'est plus un ailier aujourd'hui, il prend trop de risques et tout. Il va leur rendre des ballons et on va les mettre en confiance et la première mi-temps, on va être assuré si on met Doué au milieu de terrain.
Fabien Ruiz, il t'a rassuré toi la semaine dernière?
Il m'a pas rassuré, mais il a des automatismes que je pense qu'ils vont revenir naturellement.
Okay.
On sait qu'on va souffrir. Dans tous les cas, on va être dans la première mi-temps, je pense que ça va être un peu sur le modèle Liverpool, on va être assez bas. Pour ressortir le ballon et les prendre en compte, je préfère un Ruiz qui pourrait lancer les flèches.
Ah mais moi si c'est le Ruiz à 100%, il y a pas photo. De toute façon le Ruiz à 100%, il passe devant Zaïre Emery. Mais aujourd'hui c'est pas ce qu'on a depuis le début de saison.
Même à 70% pour une mi-temps, pour 60 mi-temps, je préfère lui qu'un Doué à 100% qui va tenter des grilles au milieu de terrain ou des passes trop compliquées et qui va nous mettre le feu.
Après là où t'as raison, c'est que moi je me dis, c'est pour ça qu'il le fera pas, même si je le préconise, c'est qu'il va se laisser quand même une gâchette offensive entre Doué et Barcola sur le banc.
Exactement.
Parce que ça peut faire 120 minutes et là-dessus je pense que
c'est bien d'avoir fait un avis, de croire à quelque chose pour casser l'avis toi-même minutes après.
Non, pas du tout Daniel. Moi je pense qu'il faut le faire parce que sur les 63 minutes il faut impacter.
Mais je pense qu'il le fera pas et je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Après, c'est mieux de le faire en cours de match.
Après bien évidemment je suis pas sûr que, enfin à mon avis il est impopulaire de mettre Désiré Doué au milieu de terrain, donc bien évidemment qu'il le fera pas. Mais moi je suis convaincu.
À mon tour, je vais laisser parler Lassana.
Il boude.
Il en grinoude en fait. Je pense que pour la profondeur à gauche, on aura Mendes qui va jouer bien plus haut vu qu'il n'y a pas Hakimi de l'autre côté. Donc il n'y a pas forcément besoin de démarrer avec Barcola. La profondeur à gauche, Mendes va la porter et ça va être Warren qui va faire le troisième défenseur central à droite qui va fermer. Donc tu vas voir que Mendes demain, je pense que c'est lui qui va leur faire mal. Tu vas voir dans la profondeur.
À la salade, on va faire un truc. Vu que Daniel boude un peu, vu que t'es passé avant lui, tu vas l'écouter et après tu vas nous dire s'il a raison.
Voilà. Ok.
Daniel, à toi.
Non, mais je trouvais ça amusant que, bon, un peu moins Jean-Louis, mais que Walid réclame le Luis Enrique que je surnommais Jiffy, puisque c'est justement quand il a arrêté d'être Jiffy qu'il est devenu, comment dire, champion.
Un des meilleurs du monde.
En tout cas, le PSG a changé Luis Enrique et Luis Enrique a changé le PSG quand ils ont arrêté. Je vais rappeler pour la millième fois quand même que dans les deux années où il est à la tête du PSG en route en Ligue des Champions, la première année, ça sort de la poule par miracle avec un pénalty tombé du ciel. Et la deuxième, le club se voyait même pas sortir de la poule. Mais on n'avait pas le droit de les critiquer à l'époque, bien sûr, parce qu'il fallait anticiper sur le formidable travail. Le formidable travail, ça a été surtout... Non, mais attends, maintenant, je vais quand même un petit peu parler. Je pense qu'on connaît tous ta version. Je me fais défoncer depuis un an là-dessus. Donc moi, je vais continuer à croire à ce que je dis parce que j'y crois profondément et parce que moi, j'ai les infos sur ce qui s'est passé et que les gens n'ont pas les infos et que vous avez les intuitions.
Comme on avait le droit de les critiquer,
mais il y a plus de débat. Vous avez
un moment où il fallait plus les critiquer. Tu continuais.
Non. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. À partir du moment où, effectivement, le Jiffy, on l'a perdu, c'est-à-dire qu'on avait plus des compos qui changeaient, des joueurs qui jouaient à des places qui n'étaient pas réellement les leurs. Et pourtant, en plus, je vais te dire, ton idée, je la trouve pas si nulle que ça, parce que il pourrait mettre Doué au milieu, ça pourrait. Sauf que, aujourd'hui, le Cénrique est rentré dans une autre logique, qui est une logique inversée à celle. Moi, vraiment, tout le monde doit s'en souvenir. Il venait de signer au PSG. J'avais dit avec cet entraîneur-là, tu peux aller aux plus grandes victoires, mais comme Guardiola, tu peux également échouer parce qu'un jour il va faire un truc un peu bizarre. Le truc bizarre, c'est Blanc contre City en 2016 ou Guardiola qui faisait tout le temps un truc chelou dans des matchs importants qu'il aurait dû gagner 1000 fois en Ligue des Champions. Sauf que Luis Enrique, peut-être plus intelligent. Il a arrêté ça quand il a senti le vent du boulet, notamment la deuxième année sur cette fameuse phase de poule où Nasser Al-Khelaifi dit si on sort pas de la poule, c'est pas grave. Et que je suis avec Luis Campos qui me dit oui, on a peur en début décembre 2024. Oui, on comprend pas trop ce qui se passe en ce moment. Et que d'un coup, tout se clarifie. Tout devient formidable et son management devient incroyable. Et l'équipe, elle est d'un coup claire. Il y a plus d'invention. Il y a plus de 4-4, je sais même plus comment ils jouaient, tellement quand j'ai dit c'est un 4-3-3 basique, on m'est tombé dessus. Oh, 4-3-3 basique, ça veut pas dire que les joueurs ils bougent pas sur le terrain, bande de bidons. Vous comprenez pas ça? Mais non,
t'as pas dit ça comme ça.
À chaque fois. Ouais. Quand on dit 4-3-3, c'est tu prends l'équipe 4-3-3, et tu mets
4-3-3,
les joueurs.
4-3-3
on est d'accord,
basique,
ils y sont, oui ou non. Sauf que le Barça il jouait dans un 4-3-3 à l'époque ou pas?
Oui.
Les joueurs ils ont le droit de bouger.
Mais il y avait pas autant
Dani
de mouvement.
Et Jordi Alba, ça montait ou pas?
Oui, mais il y avait pas autant,
il y avait pas autant de mouvement. Mais si bougeait pas.
Non, mais ils interchangeaient énormément de possession, de position, Daniel.
Et Jordi Alba, il montait pas. Pas des latéraux.
Il montait, il y avait des dédoublements. Ah, mais là, encore une fois, c'était pas la même chose. Fabien Ruiz pouvait se retrouver c'est numéro 9.
Ok, il n'y a pas de problème.
Mais c'est pas si beaucoup mieux, c'est différent.
Si ok, bon, bref.
Ouais. Parce que là, demain, il va jouer quoi, Warren Zahir Emery, demain?
Il va jouer avec une mission spécifique.
Non, mais il va jouer quoi? Quel poste?
Normalement, il va jouer arrière droit.
Ok, c'est une invention de qui?
Il n'y a pas de problème. Il a le droit de trouver un nouveau poste pour un joueur.
D'accord, ok. Donc voilà.
Mais c'est son invention. Demain, s'il n'y a pas cette invention-là,
tu te retrouves comment demain? Tu joues avec
Walid,
qui?
Ce que j'essaie de te dire depuis deux ans, ce genre de choses-là. Parce que vous êtes en dévotion. Moi, je dis juste, ce qu'il fait est remarquable.
L'année prochaine, si t'as un souci au poste de numéro 6, tu auras Beraldo en 6, c'est parce qu'il a prévu ça.
Walid.
Et ça, tu veux combattre ça, toi?
Mais pas du tout. C'est pas vrai. Tu te trompes. C'est là que tu vois. En fait, c'est parce que vous êtes à l'église. Et moi, je suis dans la réalité. Okay. Vous êtes en dévotion, pas moi.
D'accord.
Daniel Bravo, il a changé de poste. Pirlo, il a changé de poste. Oui. Laurent Blanc, il a changé de poste.
Ah, c'est très bien.
Les latéraux, tout le monde. L'histoire du football, elle nous propose ça. Il n'y a pas besoin de se mettre à
chaud. Depuis qu'elle a arrêté, il y a les matchs. Demain, il y a une solution qui est réglée par une invention de Luis Enrique. De Zahir Emery, qui n'a jamais joué à droite avant Luis Enrique en latéral.
Ok, alors je te l'accorde, c'est génial, c'est fantastique.
Mais c'est pas génial, c'est une réalité.
Mais si, parce que vous employez tout le temps les termes de génie.
Qui a dit ça?
Vous parlez
une idée,
génie.
Non, une idée.
C'est génial.
Ouais.
Ok, c'est super. Donc,
j'en reviens
à ton avis. Mais non, c'est vous qui le faites. J'en reviens à ton idée. Moi, je pense qu'il a trouvé, il a des certitudes dans ce qu'ils font, dans ce qu'il fait, pardon, et dans ce que l'équipe fait. Avec des postes qui sont maintenant Zahir Emery, il est milieu, et quand il y a un trou, il va arrière droit. Pardon, ça c'est déjà vu. Le mec a deux postes dans un match.
Mais qui a dit que Luis Enrique a fait des choses jamais vues dans 150 ans de football, en fait? Qui a dit ça? Mais qui le fou a dit ça? Quel fou a dit ça?
Kevin le dit régulièrement.
Ah, il dit que lui, il a inventé l'eau. Il a inventé l'eau, Luis Enrique.
Le feu et la terre.
Ah ouais, non, tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'on peut pas. Bon. C'est pas vrai.
je pense que la façon dont l'équipe joue et avec les certitudes qu'elle a, à savoir, d'ailleurs, on l'avait dit l'autre fois, Barcola méritait peut-être, machin, mais en fait, quand Kvara joue, c'est Kvara. En fait, il y a une hiérarchie. Oui. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas la hiérarchie qui se fait. Il y a une vraie hiérarchie. Alors que, on pense que plutôt ce genre d'entraîneurs n'ont pas d'hiérarchie. Lui, il en a une très claire. Il a un 11 qui est très clair maintenant depuis un peu plus d'un an.
Oui.
Ça, ça me plaît. Il a détaché la hiérarchie.
Mais qu'est-ce
il
qu'on fait par rapport aux dynamiques? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux dynamiques? Comme quand Kvara était mort avant Chelsea, qu'il le met sur le banc. Là, Fabien Ruiz, qu'est-ce que tu fais avec Fabien Ruiz? Demain, c'est ça le débat. Bah, c'est, est-ce que tu vas avec Fabien Ruiz ou est-ce que s'il met Doué et qu'il, alors, et qu'il passe pas,
répondre,
demain soir, tu le termines.
Fabien Ruiz, je pense que tu l'as un peu dit. S'il a, de la part du staff médical et de la cellule performance, la conviction qu'il est même à 80%, Fabien Ruiz jouera. Parce qu'il apporte quelque chose dans le milieu qui évitera un changement, qui évitera quelque chose qu'ils n'ont pas assez travaillé en match, en situation de match, surtout pour un grand match comme ça. Si en revanche, la cellule performance lui dit il peut pas te faire, ou alors peut-être il peut te faire un bout de match, et il le découpera le match. Aujourd'hui, tu as le droit à 5 changements. Tu peux adapter ton équipe en cours de route. T'es pas cloué par ton équipe du début. Mais normalement, au début, on devrait avoir Fabien Ruiz, à moins encore une fois qu'il n'ait pas le niveau physique, Zahir Emery à droite, Doué, Dembélé, Kvara.
On y va en safe.
Et je pense que c'est pas utile sur ce genre de match de tenter de tenter un truc un peu prétentieux, comme un peu changé.
Moi je pense qu'il peut les abattre. Il peut les abattre avec
comme
Doué.
Comme premier mot de la fin avec Lassana. Lassana, est-ce que Daniel t'a convaincu?
Moi franchement non. J'explique pourquoi. Parce que moi je pense que ce qu'il appelle le Jiffy, c'était nécessaire pour avoir les certitudes qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui qu'il a trouvé la recette de Luis Enrique, pourquoi il va continuer à faire du Jiffy? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui,
bah, c'est ce que j'ai dit.
Mais c'est le Jiffy qui l'a amené.
Ouais, mais toi, mais non, tu ne comprends pas le Jiffy.
En fait, Lassana, toi, quand il mettait Kang In-Lee, Faux Neuf, quand il faisait tous les changements, toi, tu faisais partie de ceux qui comprenaient. Toute la terre entière critiquait, mais toi, tu comprenais.
Ouais, mais Dembélé Faux Neuf, il l'a essayé.
Mais ok, mais très bien. Mais on va pas se mettre à genoux devant une décision.
Tu comprenais quand il mettait Asensio Faux Neuf?
Moi, je comprenais quand il mettait Asensio Faux Neuf.
Faux Neuf, ça, à un moment, ça m'avait plu. Ça trouvait pas.
Tu comprenais l'idée.
Ouais,
donc tu sentais que lui, les Neuf, il aimait pas ça.
On l'avait vu déjà quand même.
Oui, oui. Ah, bien sûr.
Roberto Baggio, ça, ça avait existé ce genre de choses, non? Déjà,
il lâche pas.
Non, mais c'est si vous découvrez maintenant. Donc, bon.
Vas-y, Lassana.
Tout à l'heure, Daniel, tu parlais de la transition, par exemple. Quand le PSG, ils se sont entêtés à faire de la possession, de la surpossession, et ça en devenait ennuyant. Mais moi, j'ai l'impression que c'était fait exprès, justement, pour les aider, pour mettre ce jeu-là en place.
Ah, d'accord, c'était fait exprès. En fait, Lassana, la différence, elle est là. C'est que vous, vous croyez comme à l'église et pas moi, c'est tout.
C'est ce qu'il y a de plus facile. Donc, c'était pas.
Moi, je pense qu'il a juste changé, c'est tout. C'est actualisé.
Moi, je pense pas qu'il ait changé. Moi, je pense qu'il a voulu forcer le trait pour mettre le jeu de position, d'accord, bien en place. Et qu'une fois
donc, il a forcé le trait au point début décembre qu'au club, on se demande si on n'est pas en catastrophe et qu'on annonce qu'on va peut-être pas sortir de la poule. Et vous, cette fable-là, vous allez y croire encore pendant 20 ans. Vous allez croire à cette fable pendant 20 ans.
La salle, merci.
Mais c'est incroyable de croire à ça. Le club annonce, on sortira peut-être pas de la poule et vous continuez à croire à ça, vous.
Merci, la salle.
Ah, c'est extraordinaire. Mais en fait, c'est ça. Le problème, le foot, c'est comme le militantisme politique. C'est que
là, t'es en fait, tout
on croit aux choses.
Tu mélanges
le militantisme politique, la religion, mais le foot, c'est le même plan.
Quoi,
on croit au truc.
Tu dis n'importe
mais il y a de l'info. Ouais.
Mais,
y a
non.
De l'info.
Mais là, il te parle pas de ça. Il te parle de sa conception d'une équipe. Comme quand là, il est en train de mettre Beraldo en 6. Comme là, il est en train de mettre Beraldo en 6. Il prépare ça dans son laboratoire de Ligue 1 pour que derrière, ces mecs-là progressent. Pour qu'au final, l'équipe. Mais voilà, mais c'est ça qui te parle. Et toi, tu voulais pas le comprendre. Mais Lee, à la base, il cherchait le bon joueur en numéro 9. Il s'est trompé sur Lee. Mais c'était sa conception du poste de numéro 9 et c'est avec Dembélé qui voulait faire la même chose l'année d'avant contre la Real Sociedad où il a voulu le réaxer et c'est l'année d'après qu'il a eu les bénéfices. C'est comme quand moi tu vas me mettre ta génération after à 20h pour que sur la première année je progresse et à un moment bah, je te rentre dedans à 22h parce que je suis prêt. Et bah, c'est ça Luis Enrique.
Et regarde l'histoire.
Oui, mais c'est comme dans l'histoire du foot en fait, c'est ça, il le comprend pas et à l'époque
mais
il le
désinguait.
Mais à l'époque tu le désinguais à l'époque.
Qui?
Bah, Luis Enrique.
Quand?
Bah, tu disais, mets les joueurs à sa.
Mais oui, alors, c'est ce qu'il a fait.
Bah. Comment ça? Non, Vitinha, c'était un 8.
Mais moi, je savais pas.
C'était un ailier.
Mais non, arrête.
Warren Zaïre Emery, c'était un milieu.
Qui ça?
Warren Zaïre Emery, c'était un milieu.
Oui, c'est un milieu.
Dembélé, c'était un ailier. Vitinha, c'était
et
un 8. Bah, il a changé de place.
Mais si on parlait pas de ces places-là, tu sais très bien qu'on parlait pas de ces places-là. De
tous les joueurs. On va passer à un club plus intéressant dans quelques instants.
Et Strasbourg Lineuf et tout ça.
Il faisait ça contre Lou en cuiseau.
À tout de suite à la fin.
Tu mens en Ligue des Champions, il l'a fait. Arrête.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h35. Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, Walid Acherchour. Changement de club. On va parler toujours Coupe d'Europe. D'ailleurs, parce que Strasbourg joue jeudi face au Rayo Vallecano en Conference League. Un petit jingle, Jean-Louis Tour, s'il vous plaît. Alors, s'il y a 23h35, il est toujours aussi frais qu'à 20h.
Bah oui.
C'est parti.
Ah mais oui, excellent. Je partais de la Coupe du Monde, je partais en vacances et je prenais l'avion et il me dit je t'ai reconnu en regardant ton ventre. Mais oui, Romain, je me rappelle bien sûr.
Oh, le jingle.
Non, mais il y en a un autre quand même.
Oui, ouais. C'est toujours le même.
Voilà. Je suis encore en forme parce que j'ai pris des pop-corn là depuis un quart d'heure, je me régale. Je pense que c'est le bon moment de faire le bilan de la saison de Strasbourg.
Ah bon?
Oui.
Avant la demi-finale?
Oui. Mais ah, vous allez comprendre.
La demi-finale.
Je déconnecte ça complètement.
Avant la finale de Leipzig, tu veux dire?
Oui, avant la finale. Avant la finale.
Non, c'est pas fait. Parce que je déconnecte mon avis des résultats de la fin de saison. Et je trouve que c'est le bon moment parce qu'après, il y a les autres enjeux en fin de saison, la Coupe du Monde. Gilbert va prendre 2 semaines de vacances. Donc, c'est le moment. Bah, c'est ce soir.
C'est normal. Ouais,
c'est pour ça qu'il fallait le faire ce soir. Donc, déjà, je vais vous montrer quand même que je suis pas arc-bouté sur mes idées anti-multipropriété, etc. J'ai accepté ce que vous m'avez expliqué.
Ah, tu fais un pas vers Gilbert,
Gilbert et Daniel. Les deux, je fais un pas vers eux. Parce que j'ai bien compris.
Je suis pas.
Je connais Jean-Louis. S'il vient pas vers nous, c'est que derrière, il va se passer un truc.
Et derrière, il s'échappe en courant.
Non, mais voilà, il y a pas le choix. La multipropriété, il faut faire avec. C'est un des rares modèles dans le foot aujourd'hui, etc. Bon, ça, d'accord. Allez. Mais par contre, là où je lâcherai pas, c'est qu'il y a des trucs qui m'ont choqué dans la saison. Un manque de respect envers Strasbourg. Je suis toujours choqué que Gilbert laisse passer ça, mais qui, selon moi, ne doivent plus se reproduire. Donc, que cette saison serve à Blouko pour une meilleure multi, pour mieux faire les choses par la suite, ou le club numéro 2, en disant les choses clairement, Strasbourg est le numéro 2 de Chelsea, et il doit être davantage considéré. J'ai trois exemples.
C'est un avis du mois de juin, ça.
J'ai trois exemples à ne plus reproduire, et je pense que vous les avez en tête, mais faire des pieds et des mains pour qu'Emega fasse une saison en plus, alors qu'il a déjà signé à Chelsea, mauvaise idée. D'ailleurs, ça aurait été bien d'avoir, bon, soit lui, s'il n'était pas blessé, soit son remplaçant, s'il avait vraiment la tête à Strasbourg
si
pour le match-là.
Final, mon avis, va prendre un coup.
Non, mais là, il est blessé. Attends, ouais, la saison, elle est presque finie. Donc, c'est compliqué. Ensuite, Rosenior l'a appelé en catastrophe à Chelsea, mais ça, c'était fiasco total, parce qu'elle arrivait échec à Chelsea, donc on change d'entraîneur en cours de saison. Et puis, alors, le dernier, là, que moi, j'ai jamais oublié, rappeler Mamadou Sarr, donc, en prêt, parce que c'était hyper important, c'était crucial pour l'avenir de Chelsea. Il a fait 2 matchs en championnat, il est même plus dans le groupe, donc ils l'ont rapatrié pour rien. Tout ça, ça affaiblit Strasbourg, ça apporte rien à Chelsea, ces trois trucs-là. Donc, il faut mieux considérer Strasbourg, et j'en veux surtout à Blouko, dans mon avis. Voilà, pour cette gestion catastrophique. J'en veux un peu moins à Marc Keller, qui a subi tout ça. Quoique, je lui en veux quand même sur un truc, c'est sur la communication. Puisque sur chacun des trois exemples, il nous a quand même expliqué à chaque fois que tout était prévu, que c'était normal, qu'il suivait Gary O'Neill depuis longtemps, sous-entendu, c'est fait exprès que Rosenior s'en aille et qu'O'Neill arrive, que Sarr, il y a Anselmino qui arrive de Dortmund où il était prêté, etc. pour le remplacer, ça va être bien.
On l'a jamais vu, non, Anselmino, non?
Kemega, c'était génial qu'il reste une année de plus, qu'il fallait dire merci à Blouko de le laisser. Bon voilà, toutes ces histoires de communication.
Je vais rétablir quelques vérités quand même.
Ah bon? Il n'y a que des vérités là.
Non,
maintenant,
erreurs factuelles.
Une fois qu'on a dit ça et que tout le monde est d'accord pour raconter la bonne histoire de ce qui s'est passé à Strasbourg, il n'y a aucun problème. Le foot va reprendre le dessus sur la fin. On va être derrière Strasbourg contre le Rayo Vallecano. Éventuellement.
Ah,
finale,
tu te couvres sur la fin d'avis. Tu l'as vu, Daniel Nova.
Pas du tout. On est supporter du foot français. Il n'y a aucun problème. On sera derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que ça gagne ou que ça perde, ça n'empêchera pas ce que j'ai dit, ça n'empêchera pas les critiques qu'il doit y avoir sur le fonctionnement de la multipropriété, sur ce qui s'est passé à Strasbourg cette année. Et donc, quelle que soit l'issue de la saison, ce que j'ai vu cette année, je ne veux plus le revoir.
D'accord. T'as oublié un cas que t'aurais pu donner aussi, qui ne laissait pas un départ vers Chelsea, c'est Bakwa.
Ils l'ont vendu, Bakwa.
Mais Bakwa, c'est pour moi erreur.
Ah, il fallait pas le vendre.
Ah bah non.
C'est une belle vente.
35
millions. Tu m'as expliqué ça l'été dernier.
Oui, mais avec le recul, Bakwa n'a quasiment jamais joué de la saison.
Ouais, il a eu une blessure.
Oui, mais ça, c'est l'histoire d'un club qui doit vendre, etc. Bon. C'est pas la multi.
C'est à ce moment-là,
il y a un criminel.
Et moi, globalement, je suis pas en désaccord avec toi, en fait.
Ah, bah.
Moi aussi.
Quelle belle fin de saison.
En tant que Strasbourgeois, ça me contrarie que Sarr parte pour rien.
Capitaine.
Que Rosenior parte pour rien. Effectivement, je.
D'ailleurs, ça pour rien.
Bah, ils ont rien apporté à Chelsea, tu vois.
C'est-à-dire.
C'est ça. Bah, l'idée, c'était d'aider Chelsea. Ces mouvements-là.
C'est, en quoi, c'est, vous regardez non, quoi,
et là, le climax. Bah,
c'est leur entreprise. Ils font des conneries à l'intérieur. Eux, ce qu'ils regardent, c'est les lignes comptables. Ah bah. Je pense que leur dossier prioritaire, c'est ce qui se passe à Chelsea où le club ne ressemble plus à rien. Strasbourg, oui, mais... c'est peut-être ça qui va sauver un peu la vitrine.
Le climax
et si,
de l'erreur.
Hasard, ça va à victoire dans une Coupe d'Europe. Je dis même pas bah, à quel point c'est champagne, quoi.
C'est champagne.
Donc, le vrai problème de Gluco, c'est Chelsea. C'est pas Strasbourg.
Le climax de l'erreur, c'est quand Rosenior a eu cette punchline qui est pas du tout passée à Strasbourg, quand il a dit, de presse, oui. Les supporters devraient être fiers que je parte à Chelsea. Alors là,
franchement. Oui, mais sauf que ça, en fait, ça, c'est une appréciation de communication de notre balcon. D'un point de vue du balcon US, ils n'en ont rien à cirer.
Ah bah, oui.
Le côté
ah
bah, supporter de Strasbourg,
c'est tout ce que je dis. Mais nous, on n'a rien à cirer du balcon US.
C'est tout ce que je dis. Il faut que les US aient un peu plus de considération.
J'ai essayé de vous expliquer que c'est pas leur problème à eux.
On a bien compris.
Donc, je sais pas de quelle façon, en fait, tu peux leur faire comprendre les envies, les attentes d'un supporter français de base.
Pour moi, ça doit être à Marc Keller. C'est le rôle de Marc Keller d'expliquer ça à Blouko.
Ah, c'est ça qu'il faut que tu dises, en ton avis.
Ah bah, je l'ai
rappelé. Alors, juste sur Emega, je rappelle quand même factuellement un truc.
En fait, il doit être un peu un gardien du temps. Au moins en termes de communication, dire le dites pas, mais après le truc, tu vas dire ouais, mais c'est que de la com, parce qu'au fond, derrière, si derrière c'est pas pensé, moi ça m'agace un peu, c'est un peu comme si on se fout de ta gueule au fond.
Ouais, sauf que là, on a eu les deux,
ah, mais là,
les maladresses
le
de com,
cas est méga
et en plus, les mauvaises décisions.
La communication des mégas d'aller à Chelsea, je vous ai raconté pourquoi ça s'est fait, oui. Et en fait, Strasbourg l'a totalement subi. Cette communication-là.
Oui, quand il allait faire les photos, etc.
Et Mega, il fait les photos parce qu'il met la pression à Chelsea en disant « Vous m'avez fait une promesse de signer ce contrat. Moi, j'ai besoin qu'on communique maintenant parce que moi, je veux aller à la Coupe du Monde. » Et comme Ronald Koeman, il ne regarde jamais le championnat de France, s'il sait que je suis à Chelsea, là, tout à coup, je vais... Et ça a été le cas, en plus.
Là, on est quoi ?
Ça a été le cas, il a été pris.
On est dans des intérêts privés.
À tel point que Koeman, hier, qu'est-ce qu'il fait après le match ? Il est dans une émission de foot aux Pays-Bas. Et Koeman, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Oh, on vient de perdre un attaquant que je voulais sur le prendre à la Coupe du Monde. » Donc ça a marché en plus. Bon,
mais on n'est pas
terrible,
dans des intérêts privés, puisque Marc Keller et Strasbourg ont fait des pieds et des mains pour qu'il fasse cette saison supplémentaire à Strasbourg. Connaissant le mec, etc., il a signé à Chelsea. Bah, ciao, va à Chelsea.
Mais il signe en pleine saison. Il signe pas au début de la saison.
Non, il signe
pas à la fin de saison.
Jean-Louis, il faut être pragmatique. Non, c'est début de saison.
Non, début de saison.
Oui, début de saison. Jean-Louis, il faut être pragmatique.
Et bah, début de saison, tu lui dis, va tout de suite à Chelsea.
T'es dirigeant à Strasbourg.
Mais il fait les photos post-mercato.
Oui, mais il signe quand même l'été.
Ah, d'accord.
L'été, il va faire les photos.
T'es dirigeant à Strasbourg. Tu vois, à ce moment-là, Emega, qui est ton attaquant numéro 1, qui sort d'une excellente saison. Panicelli, tu sais pas ce que ça va donner.
Après, t'as mis 16 millions sur Panicelli.
Et après, t'as personne. Et tu fais quoi? Tu fais tout pour regarder Emega.
Bah non.
Mais Emega, c'est
à ce moment-là de la saison,
mais Emega, ça a été un poison toute l'année.
Bah ça tu le dis maintenant.
Non, mais ça a été un poison. Oui, d'accord, tu le dis maintenant.
Il sort de la saison où il a mis ses buts, tu dis c'est mieux de l'avoir.
Ah, mais tout de suite, rapidement, tu vois que dans le jeu avec Panicelli, ça va être
collé, ça va être compliqué.
Et puis encore une fois, il a signé à Chelsea, donc il y a un moment donné dans la saison où il ne va penser qu'à son avenir à Chelsea, sa blessure, etc. Et il
ne
fera pas passer Strasbourg en premier.
Ça, je suis d'accord. C'est une limite claire et nette.
Et Mamadou Sarr, c'est le pire ou pas dans tout ça?
Je sais pas, Rosenior, c'est quand même
Mamadou Sarr, moi je pense que Mamadou Sarr, si tu lui demandes est-ce que tu aurais préféré finir la saison à Strasbourg, il restait.
Sans doute. Parce c'est pour ça que je trouve que Rosenior, c'est le pire, parce que c'est Rosenior qui pousse
exactement comme nous.
Il joue pas.
Mais alors, il s'en fout.
Mais il joue pas s'il prend une quicheta, s'il prend une sacoche.
Depuis quand
ça aussi, il a un enjeu Coupe du Monde avec le Sénégal.
Mais il y a de toute façon, il n'y a pas de problème.
Mais je pense que tous les mecs qui jouent à Strasbourg, on leur a vendu Chelsea un moment. Mamadou Sarr compris, Rosenior compris. Donc au moment où Chelsea appelle, ils peuvent pas dire ah bah non, je veux absolument rester à Strasbourg.
Et puis Mamadou Sarr, il est quand même dans les deux matchs, c'est quand même, il y a un match contre le PSG à Stamford Bridge, non?
Oui.
Il est sur le but de Kvaratskhelia.
C'était deux matchs en championnat, il y avait en plus un en Ligue
donc,
des Champions.
Je pense qu'à ce moment-là, quand il part, il te dit je vais récupérer Rosenior qui me kiffe et une Ligue des Champions et une Première Ligue. Je pense que ce soir-là, je crois que c'était un match après le PSG en plus. Parce que c'est un match de championnat quand il y a le carton rouge. Et il est même sur l'erreur du but du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il file tout de suite à Stamford Bridge, Mamadou Sarr. Après, oui, avec le recul, ça aurait été un peu plus compliqué.
Mais bon, voilà. Sans Blouko, Strasbourg n'est pas en demi-finale de Coupe d'Europe, je pense. Parce que
t'as
jamais
cet effectif-là. Moi, je trouve la vie un peu prématurée d'un point de vue du timing.
Et peut-être que ça peut être une saison historique.
Et non, c'est pas prématuré. À partir du moment où t'es d'accord avec moi sur les erreurs qui ont été faites, il faut plus les revoir.
C'est-à-dire que malgré les erreurs, tu peux finir la saison en gagnant une Coupe d'Europe.
Mais même si tu gagnes une Coupe d'Europe, je veux plus revoir ces erreurs-là. Tu peux pas tout balayer comme ça, tu vois. Ces erreurs, si t'es d'accord avec moi, Gilbert, pour les accepter, il faut plus les revoir.
Moi,
et une victoire en Coupe d'Europe peut pas tout emporter.
Moi, je t'aurais dit que j'ai l'impression que les erreurs, en fait, si eux-mêmes ne comprennent pas que c'est des erreurs, les corriger, c'est comme si tu fais rien. Si c'est juste un vernis de communication qu'on met dessus, j'estime que ça ressemble plus à du foutage de gueule. En fait, il faut accepter que ça fonctionne comme ça, ou pas, mais en tout cas que ce soit clair et qu'on te mente pas, qu'on te raconte pas une histoire, et que oui, tu risques d'avoir de la même façon l'année prochaine des changements un peu bizarres auxquels tu t'attends pas. Pourquoi il va là, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. C'est vrai que tout ce qui s'est passé cette année, c'est absolument rocambolesque, qu'on avait jamais eu ça mine de rien dans le foot. Mais encore une fois, s'ils refont un exploit, déjà ils en ont fait un là, le match contre Mayence, ça a fait kiffer quand même toute la ville.
Un exploit contre Valcano, c'est quand même pas un exploit. 11e budget de Liga.
Non, dans le sens où je retourne un match.
Oui, d'accord.
Si, pour Strasbourg quand même. Enfin, ils n'ont jamais fait ça, Strasbourg.
Okay, ils n'ont jamais fait ça, mais le budget qu'il y a, les joueurs qui
sont sur le terrain. Le Radio Vallecano, c'est censé être plus facile que
Strasbourg. Si tu ne me dis pas là, tu les sors en double confrontation. Excusez-moi,
on n'a jamais parlé autant de Strasbourg que cette saison.
Ça, c'est vrai. Et Jean-Louis n'a jamais fait autant d'amis, d'ailleurs.
Exactement. Deux. Strasbourg n'a jamais fait dans une saison deux matchs de Coupe d'Europe de suite, la Méno pleine à craquer et avec un retournement de score. Et peu importe qui est en face, on parle que de Strasbourg, sans offenser personne.
Craquer, c'est tout le temps.
Et avec, dans la foulée, peut-être une finale, même de Conference League. Pardon, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu à Strasbourg. Donc, Blouko, que ça plaise ou pas avec toutes les erreurs, et moi, je veux bien me mettre avec toi pour dire que c'est des erreurs, hein, mais à la direction, on dirait.
Ouais, mais c'est pile ou face quand même, la fin de saison, Daniel.
On a Chelsea.
Parce que jeudi soir, si ça passe pas, tu dis quoi?
Bah, ce que j'ai dit la semaine dernière, ils se sont mis dans un cas de figure, ça peut être échec total.
Mais même en termes d'image, cette saison, le fait d'avoir bazardé la Ligue 1, le fait de, qu'est-ce que tu fais?
Jeudi soir, tu dis quoi? Faut avoir un peu de recul sur rouge noir club.
Oui, mais c'est quand même rouge noir.
Jeudi soir, si tu te fais éliminer en demi-finale de Coupe d'Europe, mais tu n'as jamais été en demi-finale de Coupe d'Europe.
Oui, d'accord.
Quoi qu'il se passe,
oui, mais
c'est un truc que j'avais vu.
Cette année, il y avait quand même.
Ce sera une déception, oui, mais c'est un truc que j'avais vu.
Oui, mais c'est un gâchis de dingue en termes d'image par rapport à la perte du coach, par rapport à la perte de ton capitaine.
Mais
par
image
rapport,
pour qui, en fait?
Bah moi, je sais pas, j'avais un intérêt, moi, pour Strasbourg cette saison. Enfin, pour les supporters même. On leur a donné envie, etc.
Encore une fois, je pense pas que les supporters de Strasbourg, s'ils mettent bout à bout les moments de kiff dans une saison, ils en ont eu autant que cette année.
Mansour bout à bout.
Hein, oui. il y en a pas eu. Et nous, on n'a jamais autant parlé de ce club.
Ah, donc maintenant, en fait, on va juger une saison à l'applaudimètre, quoi, ou au nombre d'avis qu'on a dans l'afterfoot, en fait. C'est ça le...
Et tu la juges à quoi alors?
Bah, je sais pas, moi, je la juge aujourd'hui au budget, aux joueurs qu'ils ont amenés, au salaire qu'ils donnent.
Mais ils ont les performances et les matchs que tu as vus cette année Strasbourg, tu les avais déjà vus dans une autre saison?
Oui, mais j'en ai vu trop peu. Enfin, l'année dernière, moi je disais, est-ce qu'il faudra voir l'année dernière quand ils font 6-7ème, là, jusqu'à quand ils se vautrent sur les deux derniers matchs.
Nouvelle période, oui, le nouveau Strasbourg.
En fait, c'est bon, on est passé à autre chose sur le petit Strasbourg.
Le Strasbourg de Persic et de.
Ça va, on est passé. Et encore, ils étaient 6ème de Ligue 1 avec Persic.
T'es dans une évolution qui est. T'es dans une évolution qui est.
Avec Niamsi et Lienard.
Ce qu'ils font l'année dernière, cette année demi-finale de Coupe d'Europe à la maison où ils peuvent faire encore une très belle
période. Rendez-vous jeudi.
Ils sont dans quelque chose d'important.
Rendez-vous jeudi soir.
Ils sont dans quelque chose qui est positif.
Dans un instant, le Paris FC, car il y a des infos à partager et puis il faut que chacun donne son avis sur l'avenir du coach. Faut-il garder Comboiré ou pas? Des infos à venir dans quelques instants, supporters du PFC. On vous attend, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h50, Pauline Dacherchour est là, Jean-Louis Tour, Daniel Riolo. Paris FC, alors une petite info mercato Paris FC avant de parler d'Antoine Comboiré. Vous savez que l'homme qui monte au Paris FC, c'est Moustapha Mbo, capitaine.
Ouais, il y en a beaucoup qui montent, Marcondo, ça monte. Il y en a un paquet là.
Donc Comboiré lui fait confiance.
Aussi que j'aime bien derrière moi.
Et Coléochaud,
très
joueur.
Très bon joueur en sortie de banc.
Pour cette fin de saison, le PFC découvre pas mal de
joueurs. Mbo, l'Europe entière le veut. Fabrice Hawkins et Aurélien Tursin nous envoient ça. Mbo, il y a Crystal Palace, Fulham, West Ham, Liverpool, des clubs de Bundesliga. Bref.
Ah.
Il y a du pot.
Non, mais en tout cas,
il y a de la vente peut-être à venir pour le Paris FC.
Ils ont encore fait un match hier contre
Brest. Ça va être intéressant le Paris FC parce que qu'est-ce qu'ils vont faire en termes de mercato? Est-ce qu'ils vont vendre justement ce genre de joueurs? Est-ce qu'ils vont dire non, on garde? Et puis surtout,
je pense qu'à la fin de la saison, on aura le patron qui va venir dans l'after.
Et puis surtout,
nous l'expliquer, non?
Mais déjà le mercato de janvier.
Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait avec le coach?
Déjà, le mercato de janvier était bien meilleur que celui de l'été.
Alors qu'est-ce qu'on fait avec le coach? Donc qu'est-ce qu'on fait avec le coach? Je vais te le dire. La tendance très très lourde à plus de 80% maintenant, c'est que Comboiré reste. Il a gagné sa place tout simplement sur le terrain, parce que c'est vrai que depuis qu'il est là, les résultats sont stupéfiants. Il y a la défaite qui a beaucoup fait parler la semaine dernière, enfin qui l'a beaucoup fait parler lui d'ailleurs, et on pourrait parler de ce qu'il a fait en conf avec certains de nos confrères,
avec Clément Brossard d'RMC.
Que ce soit Clément Brossard parce qu'il est de chez nous, mais que ce soit avec n'importe qui, En fait, j'arrive pas. Bon, on fait une parenthèse là-dessus, mais je comprends pas l'idée selon laquelle il y aurait une hiérarchie entre l'acteur du foot et le journaliste.
Ah, je pense sur l'âge.
Non, je pense pas du tout que ce soit ça.
Je pense que c'est plus tu dois le respect à tes aînés. Et donc tu dois vous voyez quelqu'un de plus vieux. Ce qui demande son âge à Clément juste après. Je pense que c'était ça l'idée de base.
Ok. Et donc d'où on te parle comme ça en fait.
Ah, ça après c'est autre chose.
Alors, mais Daniel, après ça
de
c'est une question
d'éducation. On te parle de cette phase.
C'est une question d'éducation et de façon de voir la vie. Moi, quand je croise une personne plus âgée que moi, j'ai tendance à la vouvoyer spontanément.
Ouais, mais c'est vrai que la première fois, ok, mais là il y a un petit jeu.
Et si Combray te répond de cette façon-là, tu trouves ça normal, toi en conf, tu vas.
Non, parce que je l'aurais pas tutoyé.
Excuse-moi, il est venu ici, on l'a tutoyé pour l'interview.
Et puis même toi, moi je le tutoie parce que dans la vie, je sais pas, on a joué au golf ensemble, il se trouve que voilà, je
me connais
comme ça.
Non, moi j'ai bien aimé derrière, quand il dit appelez-moi coach, et Clément lui dit non, mais vous êtes pas mon coach, donc pourquoi on devrait l'appeler coach aussi.
Non, non, mais de toute façon,
si c'est Louis-Henri qui fait la même chose,
c'est pas une histoire en fait.
De toute façon,
c'est pour ça que je suis en train de
te dire que mais il y a personne en fait, personne, j'admets qu'un coach parle comme ça, un journaliste, en fait, à partir de quoi, d'où en fait on parle comme ça. Tu lui dis une fois, mais pas sur ce ton. Tu lui dis très, écoutez, moi je préfère qu'on me vous voit et basta. Mais pas avec ce ton, genre le prof à l'élève. C'est pour ça que je parlais de rapport hiérarchique. À quel moment? Mais évidemment que le coach du PSG a cette idée-là, ou mais beaucoup de coachs comme ça. Mais d'où? Enfin, on n'est pas leur larbin, quoi.
Non, mais d'ailleurs, pour aller dans ton sens, ça, en fait, moi ce qui me choque plus, c'est qu'on choisit le thème des questions. Comme, parce que derrière, qu'on boirait dit, ah, vous voulez me parler du PSG alors qu'il y a un match, etc. Comme Luis Enrique a dit, ah, pas de questions sur Lorient.
Exactement.
Bon, on vient avec des questions.
C'est Trump en conférence de presse, quoi. Ouais. Je choisis le mec qui me pose la question, je choisis la question. Mais enfin, c'est
pas quand même.
Mais c'est,
là,
mais bon, c'est, ouais, mais c'est le même, c'est le même principe. Ouais. C'est le même principe. Déjà, on pose la question qu'on a envie et le thème qui nous intéresse. C'est-à-dire, au PSG, ils vont pas nous reprocher de pas s'intéresser à PSG Lorient alors qu'eux-mêmes ne s'y intéressent pas. Et qu'ils ont tout fait pour que la Ligue 1 ressemble à ça. Peut-être que l'entraîneur du PSG devrait plutôt aller voir son patron et lui dire, mais la Ligue 1, si elle est dans cet état, c'est pour quelle raison? C'est à cause du président de la LFP que vous avez défendu et qui a ruiné tout le monde. C'est pour ça qu'après, on pose plus de questions sur mon club. Bon, bref, je voulais pas dévier sur Luis Enrique, je reste sur Combray. J'admets pas la façon dont il a parlé. Il a pas parlé comme ça aux gens. Tu peux très bien dire à quelqu'un, écoutez, moi, je préfère qu'on me vous voie. Et t'es pas obligé de lui dire, quel acheta, d'où tu me parles de Dieu? Mais ça va pas ou quoi de faire ça?
Surtout qu'il y avait eu la première histoire, notamment dès qu'il était arrivé, oui, avec une autre journaliste.
Il y a une autre façon de le faire, quoi. Bon, enfin, bon, bref. Ouais. Donc, en revanche, sur le sportif, je pense qu'il a totalement mérité sa place et ce qu'il a montré est réellement un plus. Genre, le PFC a changé de visage dans l'ambition, dans le caractère. Et il y a en plus, je crois, de la part des patrons. Alors, l'idée de départ était quand même qu'on finit la saison avec lui et pendant ce temps-là, Marc Onep, tu vas me trouver un entraîneur. Sauf que l'entraîneur, bah, il faut que, en gros, ça pète un peu, quoi, dans le nouveau projet, que ça donne envie. Et ce nom-là, il n'existe pas actuellement. Il n'y a pas ce nom-là, à moins de convaincre Jürgen Klopp, mais Klopp, j'ai l'impression que tout le monde doit le convaincre. Le Real et le PFC, il y a une sorte de petit gap encore entre les deux quand même. Hein. Donc, et je ne suis même pas sûr qu'il aille dans ni l'un ni l'autre, enfin, on verra bien. Donc aujourd'hui, et y a aussi l'autre élément qui est le PSG avec Comboiré en 2012, ils l'ont viré alors que ça se passait très très bien pour le projet. Et on a peut-être pas envie de faire ça en termes d'image, virer l'entraîneur qui finalement non seulement nous a sauvés, mais nous a redressé au classement, a fait qu'on gagne des matchs, ça se passe bien, on parle de façon très positive du PFC. Je n'ai pas l'impression que ce serait la décision du siècle de le virer maintenant. Après tout, il a gagné sa place.
Non, mais
il a fait ses preuves, il le mérite. Et ce n'est pas plus mal pour de récompenser le mérite. Et surtout, il a envie. Alors que nous, on pensait, en tout cas moi pour ma part, et je lui ai dit à lui aussi, je pensais qu'il n'avait plus envie. Je pensais qu'il n'avait plus cette envie-là de construire une
implication. Même moi, je pensais qu'il n'était pas fait pour ce
projet. Alors qu'en fait, il en a envie.
D'ailleurs, je renvoie au podcast, il était là dans l'after il y a quelques semaines.
Alors, Antoine Combray, s'il en a envie, eh ben, si t'en as envie, que t'es à nouveau motivé à fond, que t'es là, ben, vas-y, quoi, parce que dans ta carrière, tu as montré que quand on te donnait les moyens et quand on te faisait confiance, tu rendais. Et ben, alors, le PFC doit continuer. Et je le répète, c'est une information, la tendance très, très lourde est à ce qu'il reste.
Après, il le mérite totalement. Il y a un peu le même débat en ce moment en Angleterre avec Michael Carrick à Manchester United, où il les a ramenés troisième en Ligue des Champions. Et il y a Iraola qui est pressenti. Et c'est toujours les mêmes débats où en Angleterre, il y a des pour, il y a des contre. Pour le coup, Comboiré, sa candidature est légitime. Et moi, je le dis d'autant plus parce que quand il est arrivé, je comprenais pas le choix par rapport à ce qu'il avait produit à Nantes, par rapport aussi aux échos qu'on avait sur ce que vient d'évoquer Daniel, sur sa véritable volonté de d'être cet homme de la situation. Et en plus, il a même dans le jeu, je trouve qu'il a apporté une fraîcheur dans cette équipe. Je l'avais dit depuis un moment, mais il a choisi entre Kebal et Maxime Lopez parce que les deux jouaient trop à la baballe pour mélanger du joueur athlétique, du joueur percutant et de la qualité technique. Et ça marche très très bien. Il y a des joueurs qui arrivent à s'épanouir. Maintenant, je serais pas non plus sur le cul si on arrive en novembre ici dans l'émission en disant en fait Comboiré, il est dans une mission très très spéciale l'année dernière et qu'aujourd'hui il y a des ambitions qui sont très très différentes et ça marche pas. C'est ça qui est dur dans le football, c'est qu'il y a cet entre-deux où pour moi il mérite de continuer.
Je suis pas sûr parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un club un peu stable.
Mais je serais pas non plus
dernière info que je vous glisse. Ferland Mendy.
Ça fait 5 ans qu'il est pas en équipe de France, Gilbert.
Il est blessé, il est forfait.
Michel Platini aussi apparemment,
il n'ira pas la Coupe du Monde. Contrairement à Julien Cazard qui a pris sa retraite.
J'ai pas annoncé ma retraite internationale, pardon.
Ah, t'as pas annoncé?
Bah non, franchement, j'ai encore ma place dans l'équipe de Belgique.
T'as fait comme Franck Ribéry.
Hein, oui, c'est ça. On va parler vélo aujourd'hui.
Ah, Paul Sexas?
Ouais, par rapport à Paul Sexas, évidemment, on va parler des les grands moments de vélo qu'on a vécu, qui nous ont fait kiffer. Et il y a un petit peu d'art comme du cop.
Andy Schleck, on l'adore. 2010-2011.
Et lui, Lucas a enchaîné, était sur une semaine historique du foot français avec deux clubs peut-être en finale. Et lui, il fait une émission sur le vélo. Mais on est où là?
Tu découvres pas qu'il parle pas de foot quand même.
Il parle pas de foot. Plutôt quand je vous écoute parler, je me dis, il veut peut-être pas parler de foot parfois. Ça, c'est encore un autre sujet. On a toute la semaine pour en parler de Strasbourg, Gilbert.
Très bien.
Et tu vas à Munich? Non, malheureusement, non. Je suis dégoûté à cause de cette émission à la con, là. Je peux pas y être. Alors que c'est chez nous maintenant, Munich. C'est chez nous.
Oui. Le Lucas a enchaîné. C'est tout de suite. À demain soir, juste après le match entre Arsenal et l'Atlético. L'after sera là.
RMC, l'after foot.